Radio Okapi. Le journal Jacques-Yves Molina.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans cette édition du journal parlé. Voici le temps fort de l'actualité. Paralysie des activités dans le centre-ville de Bounia depuis ce matin, c'est le début du deuil de deux jours en mémoire des massacrés et des masés dans le territoire de Djougou. Les installations de l'Assemblée provinciale à Bouta sont toujours bloquées. Les députés provinciaux et les personnels administratifs n'ont pas accès, c'est sur décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Validation au week-end dernier du plan d'action d'accompagnement des femmes de la province de la Tchopo dans les processus électoraux. Œuvre de groupe de travail genre et élection avec l'appui de la MONUSCO. Les grandes lignes, les priorités de plan d'action dans le dossier du jour à suivre dans la seconde partie de cette édition. Voilà tout pour les sommaires. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. On commence par l'Ituri. Les activités sont paralysées ce lundi au centre-ville de Bounia. C'est suite à l'appel des communautés Ema, Mambisa et Ndo Okebo du territoire de Djougou, appuyé par un groupe de cadres politiques de l'Ituri. Ils décrètent ainsi deux jours de deuil suite au massacre du week-end dernier à Mazé dans le territoire de Djougou. Martial Kiza fait la ronde de la ville de Bounia. Suivez ce reportage.
Du rond-point final au pont Lokorto, principale artère qui traverse le centre-ville, boutiques, magasins, banques et autres stations-service sont fermées. Même constat au marché central de Bounia où les étalages sont vides. Plusieurs écoles n'ont pas fonctionné normalement car certains parents ont tout simplement gardé leurs enfants à la maison par prudence. La circulation est timide sur les grandes artères de la ville. Seuls quelques véhicules des particuliers et quelques taxis motos sont visibles. Même le bureau de plusieurs services ce public situé dans l'enceinte du complexe administratif TP n'ont pas ouvert leurs portes. Les organisateurs de ces deux jours de deuil disent que leur action vise à interpeller les autorités pour qu'elles mettent fin à ces cycles de massacres et incendies de maisons. Cette grève crée déjà la spéculation sur les marchés. Un litre d'essence se vend à la sauvette à 3000 francs au lieu de 1500 francs. Bounia, Martial Kiza, Biamungo. Radio Okapi.
Puisque nous parlons de ce massacre de l'Ituri, sachez que 5 attaques meurtrières en une semaine ont fait une cinquantaine de morts dans 4 collectivités en territoire de Djougou, à une centaine de kilomètres au nord de Bounia. C'est notamment dans le Baïma Nord, Baïma Bagoura, Baïma Banyangi et Ndo Okebo. Ce tableau sombre a été dressé ce dimanche par des notables des entités attaquées. Selon ses sources, cette situation est difficile à expliquer avec le déploiement des militaires FARDC dans la région d'Elvin Waïsala.
La dernière attaque à date a été perpétrée par des assaillants dans la nuit de vendredi à samedi et même hier dimanche avant midi dans sept villages, notamment Salarita et l'Union au groupement Mandro, à une dizaine de kilomètres au nord de Bounia, chefferie de Baïma Banyagi. Bilan provisoire des maisons incendiées, déplacement massif de population parfois avec leurs bêtes à Bounia. Aussi vers Chomie et Kassengi, au bord du lac Albert, selon Bichopanga Mandro, chef de Baïma Banyagi. Les capitaines des FARDC tués, des billets de population pillés, tel est le bilan d'une incursion des hommes armés armée dans la nuit de jeudi à vendredi dans les localités de Tchatchaku, Ukwatati et Lidjo au groupement Toro à collectivité de Baïma Bagourou. Mais l'attaque la plus meurtrière de la semaine passée a été perpétrée par des hommes portant des armes blanches et à paix dans la journée de jeudi dans 3 villages du groupement Ndaoura à chefferie de Baïma Nord. Rebotier Diapataye, élu du territoire de Ndjougou, parlait de 50 morts, tandis que le gouverneur des provinces qui était sur terrain confirmait les décotes macabres des 34 morts. Bounia, Delvé, Waïsala, Radio Cap.
Et à propos de cette insécurité à Djougou, une délégation gouvernementale et de la présidence séjournait depuis hier dimanche à Bounia pour s'enquérir de la situation. Le ministre de la Défense, Atamatabe, fait partie de la délégation. Il s'exprime au micro de Delvé Waïsala.
Le chef de l'État nous a demandé de venir ici. Le vice-premier ministre, le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité et moi-même pour venir appuyer le gouverneur dans le combat qu'il mène contre cette cruauté, ce rebondissement de phénomène que nous avons déjà oublié. Nous sommes là pour rétablir l'ordre. J'ai fait venir plus de 600 militaires de Guémena pour cela. Le commissaire général a fait venir plus de 300 militaires de Kinshasa pour cela. Ça nous préoccupe à Kinshasa. Donc nous sommes obligés de suivre nos éléments, nos troupes sur terrain pour que l'ordre soit rétabli.
Autre nouvelle, la situation confuse ce matin à Dékessé dans la province du Kassai. 3 personnes, dont un policier, sont tuées dans un affrontement qui a opposé 2 familles suite à un conflit lié à la sorcellerie. Une partie au conflit a attaqué l'autre par des armes calibre 12 et des machettes, occasionnant ainsi deux morts dans les camps adverses, parmi lesquels un ancien administrateur du territoire et son frère qui travaille à Caritas Congo Développement. La famille des victimes révoltées a déchargé sa colère sur la police venue rétablir l'ordre public. Un policier est également tué par jet de pierre. On écoute Maître Fabrice Jean Colo, notable de Kessé, joint au téléphone par Michel Kifindangoy.
Il y a 2 heures, trop précisément, dans le territoire de Dékéfé, il y a une confusion terrible semée par la famille Imbombo, qui s'est fait accompagner des armes à feu de marque calibre 12 ce matin, qui a tiré sur Monsieur Elela, l'ancien administrateur de territoire adjoint chargé de l'Ecofin, et qui a réussi au même moment sur son frère Belozar Bedi de la Caritas Développement à Dékéfé. 10 minutes après, lorsque la police et les militaires sont venus, un policier aussi a été caillassé par la famille de 2 victimes et il est mort sous les coups. Donc nous avons 3 cas de décès. Nous encourageons les éléments de la sécurité à remettre la paix et la sécurité immédiate. C'est pour cela que nous avons tenu, en attendant les enquêtes inhérentes pour déterminer les responsabilités de ceux qui ont tiré et ceux qui ont utilisé les armes à feu sur les victimes, et que la justice fasse son travail.
Entre-temps, au Kassai central, plus de 10 maisons incendiées, des blessés et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan des échauffourées provoquées hier dimanche dans la cité de Benaleka, à près de 130 km au nord-ouest de Kananga. Des sources concordantes locales pointent du doigt un militaire en congé médical comme auteur de ces situations. L'administrateur de Demba appelle la population à ne point mêler les militaires dans des dossiers de droit commun. D'autres détails avec André Kambala Moujanaï.
D'après quelques témoins, tout est parti de la mort le mois dernier d'un directeur d'école primaire. Son frère, un militaire arrivé sur place la semaine passée, au motif de congé médical, aurait pris l'option de le venger. Dimanche, ayant pris un verre de trop, il aurait d'abord passé à tabac la femme du défunt. En compagnie de membres de sa famille, il a ensuite mis le feu sur 11 maisons. Les propriétaires apeurés n'ont pas pu sauver leurs biens. Dans ces échauffourées, 3 personnes ont été blessées. L'information confirmée par l'administrateur de Demba. Toutefois, pour Joachim Likaka, le militaire en question se serait pris à la famille d'un trafiquant du diamant qu'il accuse d'être à la base de la mort du directeur. Il a blessé la femme de cet homme d'affaires et a mis du feu sur plusieurs maisons. L'autorité territoriale, qui ne précise pas le nombre de blessés, indique que ce militaire n'est pas à son premier forfait. La semaine passée, il avait confisqué la moto et l'appareil cellulaire d'un jeune. Ces biens ont été restitués à leur propriétaire suite à l'intervention des forces de l'ordre. L'incriminé a pris fuite et la situation est sous contrôle des forces de l'ordre. La tête de Demba demande enfin à la population d'épargner les militaires des dossiers de droit commun pour éviter le règlement des comptes. De Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Et puis arrivé ce dimanche à Lubumbashi, des 6 éléments Mai Mai d'autodéfense populaire. Ces éléments font partie de la 5e vague de reddition enregistrée ces 3 dernières semaines à Pweto, territoire à plus de 400 km de Lubumbashi. Le ministre provincial de l'Intérieur qui les accompagnait indique qu'ils sont à Lubumbashi pour le processus de démobilisation. D'autres détails avec Neuy Kabena.
À ce jour, ils sont seulement 6 à Lubumbashi parce que les moyens logistiques font défaut, indique le ministre provincial de l'Intérieur. Depuis le début des redditions, 123 flèches ont déjà été récupérées. Cette reddition est la 5e après celle enregistrée dans les localités de Luanza, Kiboa, Kamabangi et Luantete. Et pourtant, la population n'est pas encore assurée, souligne pour sa part l'ONG Libertas. Ceux qui se rendent n'ont pas de choix car ils sont coincés et se retrouvent vulnérables face aux autres groupes armés tels les Mai Mai Katakatanga et les FRDC. Le ministre provincial de l'Intérieur, pour sa part, rassure. Malulu Kalungwe indique que ces multiples redditions sont les fruits de la sensibilisation menée conjointement avec les autorités de la province et même certains anciens seigneurs de guerre pour pacifier le territoire de Pweto. Pour lui, à l'heure actuelle, près de 19 villages ont retrouvé la quiétude et les populations ont regagné leurs maisons. Notons que les 6 Mai Mai déjà arrivés à Lubumbashi vont passer par le centre d'orientation pour leur démobilisation. De Lubumbashi, Neuy Kabena, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, dans la province du Bazuélé, les installations de l'Assemblée provinciale à Bouta sont toujours gardées par des éléments de la police nationale congolaise. Depuis vendredi 2 mars à ce lundi matin, aucun accès n'est autorisé aux députés provinciaux, ni même au personnel administratif. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, qui a donné cet ordre de fermeture momentanée, annonce à partir de Kisangani sa descente à Bouta. Pendant ce temps, la société civile a adressé hier dimanche une correspondance au chef de l'État pour décrier à Donatien Aliana Lipanagama la mauvaise gestion de la chose publique par l'exécutif provincial.
Nous sommes ce lundi au quatrième jour depuis que les éléments de la police ont bouclé tous les périmètres de l'hémicycle du bas où il est à Bouta. Toute tentative de négociation s'est soldée à un fiasco, a dit le président de l'organe délibérant du bas où il est, Michel Guillot.
La police est toujours là, aucun député n'y accède, même moi, le président de l'Assemblée, même les services administratifs. On était chez le colonel hier, on a discuté longtemps avec lui, mais il a dit que non, l'ordre qu'il avait reçu, il ne peut pas céder.
La nouvelle société civile, coordination du bas où elle est, appelle le président de la République à venir au secours du bas où elle est, victime de mégestion. C'est dans une lettre qui date de ce dimanche 4 mars. On écoute son coordonnateur, Freddy Lemakwa.
Nous avons appelé au secours le président de la République pour aider la province à sortir dans les carcans qui se trouvent actuellement. Il y a également l'Assemblée, une émanation de la population, vient d'être encore agenouée une fois de plus par une instruction qui n'est pas fondée.
Les vice-premiers ministres et ministres en charge de l'intérieur est attendu prochainement à Bouta. En transit à Kisangani, ce dimanche, Mova Sakani reconnaît avoir donné l'ordre de suspendre les activités de l'Assemblée provinciale du bas où il est, Donatien Aliana Lipanagama, Kisangani, Radio Okapi.
Et on revient ici à Kinshasa, révision du code minier de 2002. Le président Joseph Kabila rencontre demain mardi à Kinshasa 7 représentants des sociétés minières. Le ministre des Mines, Martin Kabeloulou, l'a annoncé aux plus grands industriels miniers présents en République démocratique du Congo. Ces derniers ont adressé à 3 reprises une lettre au chef de l'État dans laquelle ils demandent une audience pour faire valoir leur point de vue. En effet, le texte approuvé par le Parlement en janvier est fortement contesté par les multinationales étrangères. Michel Kifindangoy pour le détail.
Ce nouveau code minier est sur la table du chef de l'État depuis février pour sa promulgation. L'entrée en vigueur de ce texte prend du temps alors que c'est sur demande du président de la République qu'une session extraordinaire avait été convoquée, prioritairement pour permettre au Parlement de finaliser l'examen et l'adoption de ce nouveau code minier. Si la société civile congolaise a salué l'adoption de ce texte, ce n'est pas le cas pour les opérateurs miniers. Ces derniers s'opposent à certaines dispositions de la nouvelle loi minière. Il s'agit notamment de la hausse de la redevance minière de 2 à 10%, de la réduction de certains avantages douaniers et de la suppression de la clause de stabilité de 10 ans, c'est-à-dire le code minier peut, selon la nouvelle loi, être révisé à tout moment. La nouvelle loi minière devrait déjà entrer en vigueur depuis mi-février, conformément à la constitution congolaise qui dispose qu'en ayant 15 jours après sa saisine, si le président de la République ne promulgue pas la loi, celle-ci entre automatiquement en vigueur.
Actualité Afrique Monde. La page internationale dans cette édition, un couvre-feu d'une semaine est instauré à Gao, au nord du Mali. Cette ville est depuis plusieurs jours le théâtre des tensions entre les populations songhaï, noires et arabes. C'est un des décrets que vient de prendre le gouverneur de la région de Gao, décret qui limite aussi la possession d'armes à feu aux seuls membres de forces de défense étatiques et à ceux du mécanisme de coordination des forces internationales. Et puis, double attentat de vendredi à Ouagadougou, les enquêtes se poursuivent. Les premières visites de soutien des chefs d'État commencent également avec au programme aujourd'hui le président togolais Fornia Sigbe, qui est également président de la CDAO, ainsi que le Nigérien Mamadou Issoufou. Autre visite à signaler ce lundi, c'est celle du secrétaire permanent du G5 Sahel, le Nigérien Maman Sambo Sidikou. D'après nos collègues de RFI, les visiteurs devraient notamment se rendre sur les lieux des attentats pour constater l'ampleur des dégâts. Pour rappel, ces attentats terroristes avaient ciblé vendredi l'ambassade de France et l'état-major des armées du Burkina Faso, faisant 16 morts, dont 9 assaillants. Il a été revendiqué par les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. Et puis, ouverture aujourd'hui à Milan, en Italie, du procès des compagnies pétrolières Eni et Shell. Elles sont soupçonnées d'avoir versé plus $1 milliard de pots de vin pour se voir attribuer un contrat concernant un bloc offshore au Nigeria. Toujours selon la justice, le Nigeria n'aurait pas bénéficié de cet argent, dont une grande partie aurait profité à un ancien ministre du pétrole sous le régime de Sani Abacha. Enfin, en Chine, La session plénière annuelle de l'Assemblée nationale populaire s'est ouverte aujourd'hui. C'est pour 2 semaines. Elle devrait renforcer les pouvoirs de l'actuel chef de l'État Xi Jinping en abolissant notamment la limite de 2 mandats présidentiels fixés par la Constitution. C'est dimanche que les parlementaires valideront cette réforme.